Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mercredi 17 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5. D'abord, c'est un matin froid. J'hésitais entre frais, mais froid. Ben, je pense que c'est assez froid. On a à peine 2 degrés. Il y a toujours cet avis de gel pour la région de Montréal pour la nuit prochaine, alors qu'on va tourner autour du 0 degré. Aujourd'hui, c'est du soleil, au moins. Fait changement. Hier, c'était de la pluie, c'était lourd, c'était gris. Pas ben intéressant. Mais 10 degrés. Et là, ça grimpe tranquillement. Demain, c'est du soleil 15. Et vendredi, on prévoit du temps ensoleillé autour de 25 degrés. Puis dans certains coins du Québec, on se retrouve aussi avec des avertissements de neige potentielle. Pas vraiment d'accumulation. Richard me disait qu'il y a des collègues à Sainte-Marguerite du Lac-Masson où ils ont reçu un peu de neige hier. Peut-être dans votre coin, dans les Laurentides. Sherbrooke. Alors, on fait le saut un peu, mais c'est toujours possible que ça arrive comme ça au mois de mai. Quant aux feux de forêt, eh bien, l'Alberta, ça demeure toujours extrêmement préoccupant. Il y a actuellement 90 feux, 24 qui demeurent hors contrôle. Et ce qu'on remarque depuis quelques jours maintenant, et ça s'est précisé hier, des nuages de fumée qui se sont déplacés vers Calgary. Et avec des quantités de particules toxiques, ce qui affecte la qualité de l'air. Et il y a des avis de la santé publique qui ont été émis en disant rester le plus possible à l'intérieur, puis essayer d'éviter de vous retrouver donc à l'extérieur en présence de ces panaches de fumée. Ça peut, surtout pour les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires, ben ça peut quand même être un élément inquiétant. Et puis en Colombie-Britannique également. Il y a des feux de forêt, puis on procède aussi à des évacuations. Revenons sur le meurtre de cette jeune femme dont le conjoint, Antonio Gallo, est le fils de Moreno Gallo, qui a été un personnage important du crime organisé à Montréal. Il a été expulsé du Canada pour grande criminalité. Et on va se le dire très clairement, là, c'est de mémoire jamais arrivé qu'on s'en prenne directement et surtout qu'on assassine la femme de quelqu'un qui est lié à la mafia. Femme et enfant, il y a comme un code d'éthique, code d'honneur, appelez ça comme vous voulez, mais on ne touche pas. Alors, est-ce que c'est elle vraiment qui était visée? J'imagine pas vraiment une erreur sur la personne. Et pourquoi elle? Pourquoi pas lui? Si c'est à son mari qu'on voulait s'en prendre? Daniel Renault nous rappelle ce matin que, à l'automne 2019, la femme de Moreno Gallo, qui était âgée de 70 ans et plus, avait été enlevée, séquestrée durant plusieurs heures et elle avait réussi à fuir. Que les fils ont déjà reçu des menaces. Il y a déjà un certain nombre d'incidents, comme le disait Bénédicte. Mais sérieusement, là, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'elle était visée directement. Si c'est ça, il va y avoir une réponse, c'est clair. Et deuxièmement, ça donne l'image d'un contrat mal fait. Et on est loin de l'époque, disons, où il y avait des gens attachés ou rattachés à des organisations criminelles qui avaient ce genre de contrat à faire. Là, on est avec des sous-contractants et qui reçoivent un montant d'argent puis qui veulent se débarrasser de l'affaire puis qui font souvent n'importe quoi. On tire dans des salles d'hôtel en plein après-midi dans un stationnement. On tire sur quelqu'un qui est sur l'autoroute. Disons que l'environnement a passablement changé au fil des années. On a aussi appris dans les dernières heures le décès de l'historien, du chroniqueur Frédéric Bastien, qui est mort à l'âge de 53 ans. Il avait été candidat à la direction du Parti québécois. Et c'est un historien bien connu qui intervenait beaucoup à la télé, réseaux sociaux. Et il est mort, semble-t-il, subitement. Sa femme a confirmé qu'il avait fait, je pense, de l'exercice du sport, là, et qu'il est comme tombé en arrêt cardiaque, et on l'a retrouvé comme ça, sans vie. Et il avait des chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis il a écrit un livre aussi qui s'appelle « La bataille de Londres », qui avait quand même été un livre passablement commenté. Maintenant, le gouvernement Legault se spécialise dans les primes. Et on l'a vu encore, les primes pour les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, je sais qu'il y a quand même un peu de grogne à travers tout ça. Mais là, on apprend ce matin que en éducation, si vous êtes un prof, une enseignante, et que normalement, vous partez à la retraite l'an prochain, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, vous fait une proposition. On vous offre 12 000 $ en plus du salaire, évidemment, si vous acceptez de rester dans votre job à l'école, un poste à temps complet pour toute l'année scolaire. On verra pour les modalités. Donc, la presse nous dit ce matin qu'on le sait très bien qu'on manque de profs et on veut repousser d'un an, sans pénalité, la retraite des enseignants. On le voit là, dans certains cas, le retour des retraités au SPVM. On demande à des retraités, puis c'est assez souple comme cadre, de venir donner des heures, travailler un peu. Puis on sait que les policiers prennent leur retraite assez jeune, donc c'est pas nécessairement un gros enjeu. Mais en enseignement, moi je reçois souvent des courriels de profs qui sont à bout, qui veulent s'en aller. Puis là, on se dit, ben est-ce qu'il y a un intérêt? Et on évalue d'ailleurs à peu près 7000 enseignants, le nombre de profs donc admissibles à la retraite pour qu'ils acceptent de rester en poste. Et pour ce qui est du réseau de la santé, on va prolonger les primes jusqu'au mois de septembre. Tout ça pendant que vous avez encore la négociation qui est en cours. D'autre part, puisqu'on est dans les chèques, Radio-Canada nous dit ce matin qu'il y a des migrants qui sont arrivés par le chemin Roxham, qui sont partis vers les États-Unis et qui reçoivent encore un chèque du gouvernement du Québec. Bon, on connaît le phénomène. Beaucoup arrivent, sont arrivés par le chemin Roxham. Un phénomène qu'on a observé, moins documenté, mais il y a eu quand même quelques reportages dans des journaux américains, Radio-Canada, sur le phénomène inverse des gens qui arrivaient ici puis qui décidaient de repartir. On a vu cette tragédie également de gens qui passaient par Akwesasne avec un intermédiaire, famille qui a perdu la vie. Donc, ça arrive que des gens décident de retourner. Ce que nous dit Radio-Canada ce matin, on ne sait pas de combien de personnes on parle, on n'a pas d'idée du montant, mais tout indique qu'il y a des gens qui reçoivent l'aide financière, même s'ils sont rendus aux États-Unis. Pourquoi c'est comme ça? En un mot, il y a des ententes Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, si un migrant, un réfugié, change de province, normalement, on va s'arranger pour qu'il ne touche pas un chèque dans deux provinces. Quand il quitte le Canada, ça a l'air qu'on n'est pas capable de suivre la trace. Alors, est-ce que ça représente des gros montants? Quelques millions, 25, je ne sais pas. Même Québec n'est pas capable de le dire. Techniquement, la personne est supposée rembourser les sommes versées en trop, puis ce sont des montants là de subsistance pour quelqu'un qui arrive, qu'on considère comme étant un réfugié potentiel, puis on dit, ben on va te soutenir, mais dès que tu es autonome, puis là, c'est un chèque d'à peu près 700, 1000 $ ça dépend du statut, ben tu te débrouilles. Puis je rappelle que beaucoup de ces gens-là qui, pendant la pandémie, ont quand même étaient embauchés justement dans, par exemple, comme préposés aux bénéficiaires dans les centres de soins de longue durée. Bref, il y a quand même une partie de la main-d'œuvre migrante qui a été utilisée. Mais là, ce matin, on s'aperçoit qu'il y a des chèques qui sont peut-être, qui ont été versés en trop et des gens qui sont aux États-Unis puis qui ont quand même reçu encore de l'argent du Québec. Puisqu'on parle d'immigration, sondage ce matin, Léger, le journal de Montréal, sans surprise, les Québécois, forte majorité, disent on veut être consulté par le fédéral concernant le dossier de l'immigration. Et c'est à 73%. Chez les francophones, ça va jusqu'à 78%, et chez les non-francophones, 58%. Concernant la perception de l'immigration, On peut dire que il y a une forte majorité des Québécois qui disent que c'est une bonne solution pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'il y a un autre discours, notamment au Parti québécois, mais Québécois se disent ça. On sait qu'on manque de travailleurs, donc l'immigration, du moins à court terme, c'est une réponse. Également, est-ce que c'est bon pour la croissance économique? Encore là, une majorité. Puis, est-ce que l'immigration, c'est aussi un outil pour faire face au vieillissement de la population? Donc, il y a une assez bonne perception de l'immigration. Puis évidemment, chez les francophones, le sondage le démontre, on souhaite, et le premier ministre Legault, là, il est aligné sur la majorité et sur la clientèle de la CAQ, qui est de dire, on est d'accord pour l'immigration, on veut en contrôler le nombre de ces nouveaux venus, puis on veut qu'ils parlent français pour qu'ils puissent travailler rapidement puis faire partie de la société québécoise rapidement. Puis quand on parle d'immigration, différents types d'immigrants, il y a des étudiants, il y a des réfugiés dont je viens de parler tantôt. Il y a des gens qui passent par la procédure formelle pour immigrer. Il y a des immigrants économiques. Au total, c'est environ 300 000 personnes, là. Quand je vous parlais de cette jeune Algérienne la semaine dernière qui est ici depuis quelques années puis qu'on est en train d'expulser puis il y a d'autres cas, je reviens toujours à cette idée de base. Peut-on normaliser le statut de gens qui sont déjà ici, qui ont déjà un emploi ici, qui sont en train de fonder une famille ici, plutôt que de revoir des procédures. Puis là, je comprends l'iniquité, vous allez me dire, avec quelqu'un qui attend dans un pays. Je comprends tout ça. Mais on est peut-être avantagé de normaliser. Et j'ai remarqué une chose aussi. Beaucoup de gens ont des réserves sur certains types d'immigration. Les réfugiés, est-ce qu'ils vont parler anglais? Comment est-ce qu'ils vont s'intégrer? Puis, je vous parle de gens qui sont issus de l'immigration, là, qui me racontent ça. Et il y a une inquiétude. Et cette inquiétude face au nombre et aux valeurs. Et ça, c'est pas que les valeurs des Québécois de souche. Beaucoup de gens qui s'y sont venus au Québec par la route de l'immigration, qui sont inquiets de voir qu'on n'a peut-être pas les capacités d'accueil pour, comme ça, recevoir autant de gens. Donc, dans le Journal de Montréal, vous retrouvez ça. Ce matin. Et puisqu'on parle d'études, il y a une enquête sur, disons, la santé des Québécois. Alors, premier constat dans la presse, c'est que les Québécois font un peu moins d'activité physique. Ça a l'air qu'on bouge un peu moins, puis en conséquence, on prend un peu de poids. Il y a quand même un pourcentage de gens, et c'est passé, là, en l'espace de quelques années. Si vous prenez les chiffres, là, c'est de 2014-2015 à 2020-2021, là. Les gens qui sont isolés et déprimés, puis la pandémie, c'est sûr que ça a joué, ben ça a doublé. On est passé de 7 à 15% des gens. Les Québécois fument moins et on peut aussi noter donc qu'il y a des problèmes de poids. Maintenant, concernant le cancer, ça, on vous l'avait dit pendant la pandémie avec plusieurs médecins, il y a eu moins de diagnostics de cancer pour toutes sortes de raisons. Les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital, mais aussi, il y a eu des retards dans les examens. Et un cancer diagnostiqué trop tard et peut-être va probablement amener un diagnostic beaucoup plus grave. Bref, quand on trouve le problème le plus tôt possible, ben on peut faire un plan de traitement. Et là, on se rend compte que, puis avec la pandémie, c'est qu'on a échappé. Je vous parle du Canada parce que le Québec, ça a l'air qu'on n'a pas de chiffres. Le Québec, la Nouvelle-Écosse, n'ont pas transmis les données. Mais essentiellement, pour reprendre les propos d'un médecin, c'est pas parce qu'on n'a pas dépisté des cancers qu'il y en a moins. La bonne nouvelle, c'est que des cancers, à travers le Canada, il y a 4 types de cancers qui sont souvent diagnostiqués, mais pour qui le pronostic est de plus en plus meilleur. Cancer du sein, cancer du poumon, des bronches et de la prostate. Cancer du côlon également, mais les cancers ORL, la gorge par exemple, on sent qu'il y a une augmentation du nombre de ces cancers, ou en tout cas de la virulence de ces cancers. Je vous parle aussi du point de presse du directeur du service des incendies de Montréal concernant l'article dans le Globe and Mail. Qu'est-ce qu'on dit dans le Globe and Mail? Essentiellement qu'on avait décrété un moratoire sur les suivis concernant les inspections dans les bâtiments qui posent des problèmes à la sécurité, ce qu'on appelle les voies pour quitter les voies d'évacuation et les systèmes. Depuis 2018, on est en 2023, puis que ça aurait été réactivé plus ou moins avant la tragédie du Vieux-Montréal. Le directeur, M. Richard Liebman, a donc rencontré les médias hier. Malheureusement, il reste encore plein de questions sans réponse. Et la direction ne veut pas nous accorder d'entrevue. Ils ont le droit, c'est pas un subpoena. Puis là, la réponse officielle, c'est que on a mis en suspens certaines procédures à partir de 2018 parce que les dossiers étaient complexes sur le plan judiciaire. Ce que le Globe nous a appris, c'est qu'en 2009, dans le bâtiment qui a flambé, où 7 personnes ont perdu la vie, il y avait une inspectrice qui avait déjà remarqué qu'il y avait des couloirs sans issue, que ça manquait de sortie. En 2018, on a encore signalé des problèmes. Et de toute évidence, il n'y a pas eu de suite. Moi, de me faire dire qu'il y a encore des inspections, je veux bien, mais quel est le suivi? Et la réponse, c'est ben là, on a un nouveau plan, puis depuis, on est en train d'embaucher des gens, tous les efforts sont déployés, on va tout faire ce qu'on peut. Je m'excuse, mais ça, c'est pas satisfaisant comme réponse. C'est comme quand la Société d'assurance automobile du Québec vous dit, vous savez, nous autres, ce qu'on fait, là, c'est que le système va très bien. C'est pas un problème de système, c'est un problème d'accès. Excuse-moi, là, mais c'est comme tu me dis, dans ta maison, c'est merveilleux, mais on n'est pas capable de rentrer. Et les explications sont insatisfaisantes. Et il y a encore, comme je le dis, plusieurs points d'interrogation. Heureusement, il y aura une enquête du coroner, enquête publique, concernant cette tragédie dans le Vieux-Montréal. Rapidement, vous dire que l'inflation est repartie à la hausse un peu, on s'attendait à une baisse. Mais quand même, là, on n'est pas dans des fortes hausses. Le prix des légumes, c'est quand même pas pire. L'épicerie, ça demeure en fait élevé, ça coûte encore cher. Mais de ce côté-là, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Et puis, je termine avec ce dossier dans la presse. C'est un autre message à notre ami Bernard Drainville. On raconte l'histoire d'un prof qui a fait l'objet d'allégations pour inconduite. C'est un prof d'éducation physique qui travaille pour le Centre de services scolaires de Montréal. Il a été dénoncé à plusieurs reprises au fil des ans à l'école Louise Trichet, dans l'Est. Et il faisait l'objet donc d'une enquête après des plaintes. Il a démissionné. Mais parce que le dossier est confidentiel, il s'est retrouvé donc dans deux écoles secondaires. Il a changé deux fois d'école. Puis le dossier suit pas. Il fait partie, comme on dit, du suivi qui, normalement, devrait être fait.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, on sait que Québec aime beaucoup les primes. On le voit actuellement pour ce qui est des enseignants. Je vais y revenir tantôt. Et avec la pandémie, pour recruter des préposés aux bénéficiaires, on a offert une formation rapide, des primes. On a aussi présenté des primes pour les infirmières dans le réseau de la santé. Il y avait quand même certains aspects, certains engagements à prendre, mais bon. Et hier, Christian Dubé dit, j'ai besoin encore une fois de personnel, j'ai des postes à combler, l'été s'en vient, faut donner la formation. Et on s'est dit, on va remonter dans le temps, puis aller voir ceux et celles qui avaient accepté, avec le programme Je contribue, d'aller suivre la formation et de devenir préposés aux bénéficiaires. Deux personnes qui ont des parcours différents. Je commence avec Joanne Dubé, qui avait accepté donc d'aller faire la formation. Elle est avec nous ce matin. Madame Dubé, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, c'est en 2020, vous aviez accepté d'aller chercher la formation. Vous avez travaillé combien de temps dans un CHSLD?
Une fois que ma formation a été terminée, je pourrais vous dire tout au plus 2 mois.
Pourquoi?
En fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai eu une expérience vraiment très désagréable de mon côté, là, très éprouvante même, je dirais.
Quand vous dites désagréable et éprouvante, donnez-moi des exemples là, qui n'ont pas fait en sorte que vous soyez encore là.
En fait, moi, je suis quelqu'un de très humain, je suis très sensible et j'ai à cœur le bien-être des gens, surtout des personnes âgées. À l'époque, j'étais conseillère en hébergement dans une résidence pour aînés. Donc, j'aimais beaucoup le contact avec les aînés, justement, et je me suis dit que peut-être que je pourrais faire la différence en les aidant encore plus. Mais sur le terrain, c'est vraiment tout autre chose. Des plans de travail qui ne sont pas à jour. Sur l'heure du dîner, il faut alimenter les gens, mais c'est à la vitesse parce qu'il y en a un autre qui attend, qui a faim. C'est de ne pas avoir eu le temps de prendre bien soin des gens.
Est-ce que dans la formation, on vous avait préparé à la réalité de terrain? Autrement dit, est-ce que quand vous êtes arrivé, là, vous êtes dit, ben c'est ce qu'on m'a montré, puis là, je sais dans quoi je m'embarque là?
Honnêtement, moi, j'ai eu deux excellentes enseignantes. Je ne leur reproche absolument rien, mais je crois que même elles n'étaient pas, je pourrais dire, préparées à ce qui était pour nous arriver. Elles nous ont vraiment donné l'enseignement nécessaire au niveau des soins techniques, mais la réalité sur le terrain était vraiment différente.
À l'époque, il y en a beaucoup qui nous ont témoigné, disons, des relations de travail difficiles avec des collègues qui étaient déjà là, des préposés formés, qui avaient de l'ancienneté, qui n'ont pas nécessairement apprécié voir arriver les nouvelles venues puis les nouveaux venus.
Oui, tout à fait. Ça, on a eu l'accueil a été très très froid. Écoutez, je peux vous donner un exemple. J'avais à prendre soin d'un résident. Et puis, sur le plan de travail, c'était indiqué qu'on devait le faire à deux parce qu'il était grabataire. Donc, puis c'est un monsieur assez costaud. Et je me fais répondre quand je demande de l'aide, ben moi, je le fais tout seul. On va en dire débrouille-toi.
Fait que ça n'a pas été une expérience bien agréable pour vous, finalement.
Zéro. Je suis vraiment amère de mon expérience.
OK. Merci, Mme Dubé. Je me tourne maintenant vers Frédéric Larouche, qui est, lui, préposé aux bénéficiaires depuis 2 ans maintenant. Donc, il a eu la formation, puis il a décidé quand même de rester dans le réseau. Monsieur Larouche, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, vous allez me parler un peu de vous. Vous avez quoi, 38 ans? Vous êtes préposé dans une résidence. C'est quoi votre travail exactement?
Mon travail, c'est exactement ça, c'est préposé bénéficiaire, donc c'est faire les soins des résidents, les alimenter, les divertir quand on a un 5 minutes de libre.
Okay.
C'est pas mal ça.
Pourquoi vous avez répondu à l'appel à ce moment-là du gouvernement dans le cadre du programme Je contribue? Qu'est-ce qui vous a attiré pour suivre la formation?
Au départ, moi, je travaillais en aéronautique. J'étais un sous-contractant pour Bombardier. Donc, aussitôt que ça a été déclaré pandémie, moi, le lendemain, j'avais plus d'emploi. La PCU, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aussi avancer. Rester à la maison, c'est pas nécessairement l'idéal tout le temps. Donc, comme tout était pas mal arrêté, je me suis dit que j'allais contribuer pour la population des CHSLD, puis j'allais aller aider là.
OK. Mais c'est intéressant, là, vous étiez dans le domaine de l'aéronautique, vous perdez votre job, vous dites, moi, je ne resterai pas à rien faire. OK, je vais aller suivre la formation. Comment ça s'est passé pour vous, la formation?
Moi, contrairement à la dame juste avant, je trouvais que le cours était un peu, excusez-moi l'expression, garroché, dans le sens que même les profs étaient un peu dépassés par les événements. Faire un cours avec une aussi courte notice, c'est pas nécessairement évident, je les blâme absolument pas, mais mon cours, moi, je l'ai appris sur le terrain avec mon formateur.
OK. Quand vous êtes arrivé après la formation, est-ce qu'on vous a bien accueilli? Est-ce que ça a été difficile? L'adaptation, l'ajustement, comment ça a été?
Je dirais que oui, ça a été un peu plus froid avec certains collègues. C'est sûr, parce que eux, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça l'avait pris un temps absolument ridicule. Je pense à un 10 ou 15 ans avant d'avoir des temps pleins. Donc, nous, aussitôt qu'on arrivait avec le même salaire qu'eux, puis avec un temps plein déjà assuré, c'est sûr que ça fait de la jalousie, mais quand on a réussi à prouver qu'on était compétents puis qu'on était là pour les aider dans le fond, ben c'est sûr que l'attitude a beaucoup changé.
Là, vous avez un emploi dans un centre de soins de longue durée privé conventionné. C'est la résidence Bertiom du Tremblay. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas retourné vers l'aéronautique, que vous êtes demeuré quand même préposé aux bénéficiaires?
Ben honnêtement, c'est le contact humain que j'aime vraiment beaucoup. Je vous cacherai pas que c'est pas facile à tous les jours, mais quand il y a des beaux moments avec les résidents, ça compense tellement pour les moments plus difficiles là, que j'ai décidé au moins pour une certaine période de rester à cet endroit.
Quand vous dites des beaux moments, donnez-moi des exemples.
C'est sûr qu'il y a des résidents avec qui on connecte un peu plus. Donc, si tu peux avoir une conversation avec un résident qui a plus de 100 ans, puis qui raconte son enfance à l'époque de Montréal ou dans le pays où il est né, c'est vraiment des moments enrichissants, je trouve.
Est-ce que quand vous avez décidé d'aller suivre la formation puis que vous avez accepté l'emploi, dans votre tête, aujourd'hui, vous seriez encore là? Ou si c'était comme transitoire, je vais faire ça une couple de mois, un an peut-être, mais pas plus?
Au départ, c'était vraiment transitoire, mais j'y allais avec l'esprit ouvert.
OK.
Je m'étais pas mis d'œillère ou de temps défini. Donc, à partir de là, j'y allais aussi. C'est sûr que si mes collègues m'auraient fait faire un enfer, je serais peut-être plus là à ce moment-ci. Mm-hmm. Mais je me donnais au moins mon année pour passer au travers, l'année que j'étais obligé de faire au départ, puis après ça, on évaluerait ça.
Dites-moi, si vous aviez peut-être, pas un conseil, mais après l'appel du ministre Christian Dubé, des gens qui sont actuellement en train d'y penser, qu'est-ce qu'ils devraient savoir avant d'aller chercher la formation et d'embarquer dans le programme?
Écoutez, c'est sûr que ceux qui veulent améliorer et, en parenthèse, excusez-moi l'expression, changer le système, on réussira pas à changer le système. Le mieux, c'est d'y aller avec ce qu'on peut apporter nous-mêmes, aller y chercher quelque chose aussi, pas juste y aller pour faire du bien. Le but, c'est sûr, à la base, c'est ça, mais c'est voir ça un peu avec des lunettes roses. Malheureusement, dans l'immédiat, c'est sûr, ça changera pas, à moins qu'il y ait même, je dirais, 15 000 préposés qui arrivent de plus. Là. Mais c'est vraiment d'y aller pour soi, puis pas y aller avec des attentes trop élevées non plus.
Si je traduis votre propos, puis vous me direz si c'est ça, là, ceux qui pensent faire une révolution puis transformer de A à Z le système, allez pas là, vous allez être déçus. Mais si vous souhaitez, d'abord, sur le plan personnel, vous enrichir puis faire la différence dans la vie de quelques personnes, ben vous allez être capable de vivre une belle expérience.
C'est exactement ça. J'aurais pas pu mieux dire.
Merci beaucoup, puis bravo pour ce que vous faites, monsieur.
Je vous remercie, monsieur Arcan.
Au revoir. Frédéric Larouche est préposé aux bénéficiaires depuis 2 ans. Et on a des chiffres parce que la formation rapide avait été donnée en juin 2020. Et parmi les plus de 10 000 là, qui ont complété leur formation à ce moment-là, il y en a presque 8 000 qui sont toujours à l'emploi du ministère. Donc, c'est un taux de rétention d'à peu près de 80%. On nous dit que dans l'ensemble du réseau, c'est 71%, mais ça veut dire quand même, là, oui, il y en a qui ont eu la formation, puis qui n'ont pas été, ravis de ça, puis qui n'ont pas aimé faire ce type d'emploi, mais beaucoup sont quand même restés. Et ça n'a pas été un programme perdu. Puis je pense que c'est important ce matin comme donner 2 points de vue. Quelqu'un qui a pas aimé ça, puis qui a dit, moi, après 1 mois et demi, ça allait pas. Puis quelqu'un qui est quand même parti, je vous rappelle, du domaine de l'aéronautique pour aller travailler comme préposé, puis pourrait très bien, je suis aujourd'hui, là, retourner dans son ancien secteur d'activité. Bon, on apprend ce matin que pour que des profs renoncent à leur retraite ou en fait repoussent leur retraite dans le temps, Québec serait disposé à offrir aux enseignants des primes. Et des primes quand même importantes. La ministre responsable du Trésor, présidente du Conseil du Trésor et responsable de l'administration, Sonia Lebel, est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, je comprends que là, vous constatez qu'on va manquer de profs. Déjà, on n'en a pas. Il y en a un paquet qui partent à la retraite. Et là, vous leur offrez quoi? Jusqu'à 12 000 $ de primes?
Oui, ben c'est toujours une période critique, la rentrée scolaire. Hein. Je l'avais déjà identifié quand je parlais de mes deux jalons d'urgence là, pour les négociations. Maintenant, bon, il est clair qu'on n'aura pas nécessairement réglé les conventions collectives, bien que je continue à le souhaiter, mais il faut quand même penser à la rentrée scolaire. Et c'est la période ici, là, au mois de mai jusqu'à la fin mai, où les professeurs, entre autres, qui sont éligibles à la retraite sans pénalité. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas combien ils songent présentement, mais il y a un potentiel de 7 000 enseignants qui pourraient aujourd'hui dire, ben moi, je suis pas nécessairement arrivé au bout de mon enseignement, mais je suis capable de prendre ma retraite sans pénalité. Donc, c'est eux qu'on tente de retenir, là, à tout le moins pour l'année scolaire 23-24, en leur offrant une prime de 12 000 $ mais naturellement, ils doivent s'engager à rester à temps complet, là, pour l'année scolaire à venir. C'est un peu similaire à ce qu'on a mis sur la table, là, pour les négociations. C'est pas tout à fait la même mécanique, mais c'est le même objectif, là. C'est de demander à ces professeurs d'expérience, là, de nous donner encore quelques bonnes années là, dans le réseau scolaire.
Mais est-ce que le plan, c'est de dire, voilà 12 000 pour la prochaine année scolaire, puis si vous restez un 2 ans, on va vous redonner un 12 000. Si je reste 3 ans, un autre 12 000?
Non, le plan, c'est de régler avant les conventions collectives, naturellement. Mais à l'intérieur des conventions collectives, dans le dépôt gouvernemental que j'ai fait là pour mes deux priorités, là, mes majeures, c'est-à-dire éducation et santé, il y a toute une mécanique qui vient bonifier de façon substantielle la retraite des enseignants qui vont accepter de nous donner quelques années supplémentaires. Et chaque année supplémentaire là, vaut vraiment la peine. La mécanique est quand même assez compliquée à expliquer, mais c'est un impact sur leur retraite pour les plusieurs années. Puis on sait que maintenant, heureusement, en tout cas pour nous, mais c'est plus difficile pour les planifications de retraite. On vit de plus en plus longtemps. Donc, l'impact est sur leur retraite. Maintenant, comme cette mécanique-là et cette mesure-là n'est pas encore acceptée ou négociée ou enchâssée dans les conventions collectives, ben moi, je dois agir le plus rapidement possible pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, on va y aller par un montant de 12 000 $ Mais cet enjeu-là, il est sur la table de négociation là, pour le futur.
OK. Est-ce que je comprends aussi que dans le secteur de la santé, les primes qui venaient à terme là sont repoussées jusqu'en septembre?
Oui, ben, sont repoussées de quelques mois, effectivement. Encore une fois, c'est des primes qui se sont terminées techniquement avec les conventions collectives à la fin mars dernier. Elles faisaient partie de la dernière négociation. Elles n'étaient pas récurrentes. Elles étaient pour le terme d'une négo. Maintenant, encore une fois, moi, c'est le domaine de la santé. On le sait, hein, même en période de non-négociation, l'été est toujours un moment critique de réorganisation du travail. Donc, on reconduit les primes là, pour pouvoir inciter les gens à nous donner encore du temps. Mais encore une fois, elles sont sur la table de négociation dans l'espoir qu'on arrive à une conclusion rapide, qu'on puisse les enchasser là, de façon un peu plus pérenne, là, tout le moins au moins pour un terme de négo, encore une fois.
Okay. Là, on parle beaucoup d'argent, mais il y a d'autres enjeux dans une négo. Là. Je pense, oui, par exemple, à l'ancienneté, puis comment on attribue les postes dans le réseau autant d'éducation que de la santé. Puis bon. Là, êtes-vous en train de négocier ce qu'il y a dans le projet de loi du ministre Christian Dubé, c'est-à-dire que l'ancienneté se promène?
Non, je suis pas en train de le négocier. C'est sûr que dans le présent loi de mon collègue, c'est pour le futur quand Santé Québec sera mis sur place. Et l'idée, c'est d'avoir de la souplesse. Par contre, oui, ce que j'ai sur la table présentement, moi, puis j'ai réitéré aux chefs syndicaux chaque fois que je les rencontre, l'organisation du travail, pour moi, est primordiale. Et il faut qu'on soit capable, Paul, de revoir les paradigmes. Je l'ai dit, là, j'ai pas l'intention de jeter l'ancienneté à la poubelle. Par contre, ça a une valeur dans la fonction publique, l'ancienneté, c'est pas pour rien qu'on s'y accroche, mais il faut être capable de comprendre que c'est pas normal que les enseignants, ce que j'appelle les 0-5 ans, dans les 5 premières années de leur profession, là où ils ont besoin le plus de soutien, se retrouvent souvent dans la mécanique actuelle de choix de poste avec les classes les plus difficiles. C'est pas normal non plus que dans le réseau de la santé, nos infirmières qui ont le plus d'expérience ou celles qui sont dans la progression de leur carrière avec des jeunes familles puis qui ont peut-être le plus de difficultés d'organisation travail-famille, on comprend, se retrouvent toujours avec les cadres de travail qui sont ce qu'on appelle, nous, défavorables. Maintenant, l'idée, c'est pas de jeter aux poubelles l'expérience, l'ancienneté. Il faut valoriser au contraire l'expérience et pas être capable d'avoir un meilleur équilibre. Moi, j'en viens de la fonction publique, je le comprends, là. Mais moi, avec mon expérience et mon ancienneté à la Couronne, je recevais aussi les dossiers les plus complexes. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette valeur-là de l'expérience, qu'on comprenne qu'il faut aussi que ces gens-là viennent nous faire bénéficier de cette expérience-là. Mais on comprend également que l'ancienneté doit aussi avoir une valeur, puis qu'on comprend que quand ça fait 20 ans, 25 ans, 15 ans qu'on donne du temps à la fonction publique, ben des fois, ça nous donne envie de peut-être lever le pied un peu sur l'accélérateur. Sauf que on est dans des paradigmes extrêmement rigides présentement avec cette ancienneté-là. Fait que cette souplesse-là, elle se discute. Et moi, j'ai de l'ouverture pour atterrir à des endroits qui vont être, je dirais, gagnant-gagnant. Mais il faut que j'ai des résultats concrets sur le terrain et que j'y vois des effets là dans l'organisation du travail pour le bénéfice de tous, les patients, les enseignants, les infirmières, les élèves. Bon, mais je pense qu'il faut qu'on se donne la permission d'en discuter.
Okay.
C'est ça mon message.
OK. Des augmentations de salaire de 30 000 $ des députés, le chef de cabinet du premier ministre qui gagne 70 000 de plus, puis Bernard qui s'en va dire que ça se compare pas un député ou une députée, son travail, puis une enseignante. Là. Ça vous aide pas ben.
Ben, écoutez, en négociation, si on pouvait vivre dans un vacuum en dehors de la réalité du quotidien, je serais bien heureuse, honnêtement. Mais non, écoutez, il faut comprendre que c'est très difficile de faire des comparaisons au premier niveau. Puis ça, je comprends tout à fait bien.
Non, mais c'est sûr.
Gens.
Moi, là, je suis votre vis-à-vis syndical, puis je vous dis, OK, ouais, toi, tu me donnes 9 %, là, puis pendant ce temps-là, le boss le chef de cabine du PM, ouais. Il y a 30 % d'augmentation. Vous avez eu 30 000 piastres de plus, puis t'as pas d'argent pour les profs, t'as pas d'argent pour le personnel de soutien.
Oui, ben je le comprends très bien, puis ils vont s'en servir de l'argumentaire. Si c'est à leur place, je le ferai, mais ils comprennent très bien aussi la réalité. Je vais prendre les députés à titre d'exemple. Il y a deux raisons pour lesquelles les députés, selon le rapport indépendant là, qui va être étudié par l'Assemblée nationale, les députés ont eu cette augmentation-là. La première, c'est une réévaluation des postes. Ce que je fais régulièrement dans la fonction publique, je l'ai fait encore dernièrement pour certains postes, comme les agents de services correctionnels. On appelle ça réévaluer un poste. Ça se négocie pas et ça peut donner des effets de l'ordre, des fois, de 6, 7, 8, 10 %. Mais c'est pas dans les paramètres salariaux, ça. C'est pas compris. Mais je le fais et je l'ai fait dernièrement pour certains postes encore en marge. Donc, il y a un 15 % qui vient d'une réévaluation d'un poste et d'une reclassification dans l'échelle que l'on fait dans d'autres postes. Il y a un autre 15 % qui vient du fait que, dans le rapport, et là, je vous donne les données du rapport, naturellement. C'est pas moi qui l'ai écrit, là, mais ce sont des choses qu'on fait également dans la fonction publique.
Comme on dit, la vie est basée sur des perceptions et timing is everything.
Exactement. Sauf que moi, quand je suis au table de négociation, je suis fort capable de défendre ces augmentations-là sur des critères objectifs et ils le savent. Mais je comprends très bien que dans l'espace public, c'est très difficile pour les gens à comprendre et que ça fait un effet, disons, wow, peut-être pas à mon avantage dans la négo.
Merci
mais
beaucoup.
Mais on va vivre avec.
Parfait. Merci. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Sonia Lebel est la présidente du Conseil du Trésor. Mais c'est clair que quand elle dit que c'est préférable d'être dans une bulle, tu comprends, où il n'y a pas d'interférence venant de l'extérieur. Parce que c'est sûr que du côté syndical, on va jouer ça, tu sais. Appelons ça de la stratégie dans le cadre d'une négo.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. Fabrice de Pierrebourg se trouve actuellement dans la bande de Gaza, où heureusement la paix est enfin revenue après 5 jours de combats intenses. On lui parle donc ce matin. Bonjour Fabrice.
Bonjour Paul.
Peut-être d'abord nous expliquer comment tu as pu te rendre jusqu'à la bande de Gaza. C'est pas toujours simple.
Non, c'est pas toujours simple. Et à chaque fois qu'il y a des affrontements, l'accès à Gaza est fermé par les Israéliens. Donc, il faut arriver par un point de passage qui est situé au nord de la bande de Gaza pour avoir un permis côté israélien, puis pour avoir un permis côté des autorités de Gaza, donc du mouvement Hamas qui dirige la bande de Gaza. Et on passe par une espèce de frontière à pied. Quand j'étais venu il y a 5-6 ans, il fallait faire 1 kilomètre dans un couloir grillagé, dans une espèce de zone démilitarisée. Là, c'est un peu mieux organisé. Il y a des bus maintenant parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'habitants de Gaza qui ont des permis pour aller travailler en Israël. Donc, c'est très important pour l'économie ici. Donc, une fois arrivé côté Gaza, il a fallu que je subisse un petit interrogatoire de 30 minutes. Ils voulaient savoir où j'avais travaillé les précédentes années, enfin, avoir un peu tout mon CV, quoi. Évidemment, Ils sont très craintifs, ils craignent l'infiltration d'espions israéliens chez eux. Puis la vie a repris, Paul. Là, ça fait 3 jours que d'un côté, il n'y a plus de roquettes de tirer, puis il n'y a plus de frappes israéliennes. Donc les marchés sont pleins, les gens sont dans la rue. Mais c'est un cycle de violence qui a duré 5 jours, qui a débuté début mai, à la suite de la mort en prison en Israël, à la suite d'une grève de la faim, d'un haut responsable du djihad islamique palestinien. C'est un des groupes armés palestiniens qui sont ici. C'est un mouvement révolutionnaire qui est soutenu par l'Iran, qui est classé terroriste au Canada et entre autres en Europe. Et pour venger la mort de son responsable, ils ont tiré des dizaines de roquettes en Israël. La répliquer, évidemment, c'est toujours la même chose. Ils ont lancé une opération qu'ils avaient baptisée « Bouclier et flèche ». Et au final, au bout de ces 5 jours, il y a eu 1500 roquettes de tirées vers Israël. Et de l'autre côté, Israël a frappé 420 cibles ici. Souvent, ce qu'Israël disait, c'est que c'était des lieux qui habitaient des rampes de lancement de roquettes, ou aussi des hauts responsables du djihad islamique palestinien. Et ce matin, j'ai vu, on a eu le temps de voir avec mon collègue des maisons qui ont été détruites. Et souvent, c'est la même chose. Ils reçoivent un appel, ou les voisins reçoivent un appel du renseignement israélien ou de l'armée israélienne qui leur disent « Sortez d'ici, vous avez 20 ou 30 minutes pour partir d'ici. » Donc les gens sortent en catastrophe et c'est suivi immédiatement par des frappes de drones et de bombes larguées par des F-16. Et c'est des frappes impressionnantes. Il y avait des endroits, c'était des cratères d'au moins 10 mètres de profondeur et les gens depuis ont rien. Donc la plupart nous disent ah, on ne sait pas pourquoi on a été frappé. À d'autres endroits, c'est parce que dans l'immeuble ou dans la maison, c'est qu'il y avait des responsables du djihad islamique. Sauf que il y a eu beaucoup de civils qui sont morts, des femmes et des enfants qui ont été tués parce que ils étaient à la mauvaise place au mauvais moment, ou c'était des familles, des proches de ces hauts responsables de palestiniens. Quoi.
Il faut dire que c'est une région, évidemment, qui a été marquée par une série de conflits, de guerres. Je pense que c'est la 16e guerre en l'espace de 20 ans.
Exactement. 16 opérations. Et j'étais en Israël une journée avant de rentrer ici, et à la télévision, il y avait des commentateurs qui disaient « Mais à quoi ça rime tout ça? On en a 16 opérations en 19 ans. » Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est très coûteux, à la fois en vie humaine, mais aussi économiquement, tant du côté palestinien, où les gens me disaient ce matin qu'ils espèrent qu'il n'y aura pas de nouveau conflit parce que c'est dommageable pour l'économie du pays, tout s'arrête, mais aussi du côté israélien. Donc il y a des gens qui se disent bah, « Écoutez, il faudrait peut-être trouver une autre solution, mais on sait le gouvernement de Netanyahou, le nouveau gouvernement de Netanyahou, où il y a beaucoup de membres d'extrême droite, entre autres son ministre de la Sécurité nationale, ils semblent pousser à chaque fois pour des conflits. Puis il faut dire qu'ils sortent de plusieurs semaines de manifestations, c'est qu'il y a une réforme judiciaire qui ne fait pas l'unanimité en Israël, et cette guerre finalement a mis sur pause cette révolte interne. Mais là on rentre dans une semaine à haut risque, Paul, encore une fois, parce que demain, il y a une manifestation d'ultranationalistes israéliens, ça s'appelle la Marche des drapeaux, et c'est un défilé qui normalement doit traverser la vieille ville, la ville arabe de Jérusalem, et c'est perçu tant ici à Gaza que du côté israélien chez les progressistes comme une provocation. Il y a 2 ans, le Hamas avait tiré des roquettes à ce moment-là, et on craint que demain, de nouveau, peut-être un nouveau conflit des morts. On ne sait pas quelle va être la réaction des groupes armés palestiniens à cette manifestation à laquelle va prendre part d'ailleurs le fameux ministre de la Sécurité nationale qui est affilié à l'extrême droite. Et donc, ça va être un test pour ce cessez-le-feu qui reste malgré tout très fragile ici, quoi.
Merci, Fabrice. On aura l'occasion de se reparler. Fabrice de Pierrebourg qui nous parlait en direct ce matin de la bande de Gaza.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Je termine en vous parlant d'une bonne nouvelle, parce qu'il y a un restaurant montréalais qui s'appelle Mon Lapin, qui s'est classé comme meilleur restaurant au Canada, ce qui n'est pas rien, là. La dernière fois qu'un restaurant québécois a obtenu la première place, c'était le Toqué, et c'était en 2016. Des juges qui ont évalué la qualité des repas, le service, toutes les propositions qui étaient présentées par des restaurants. Marc-Olivier Frappier, à qui on a déjà parlé, est copropriétaire de ce restaurant qui est situé depuis 2018 à Montréal. Monsieur Frappier, bonjour.
Bon matin.
Quel sentiment ça donne, quelle réaction qu'on a quand on est le meilleur restaurant au Canada selon ce palmarès?
C'était vraiment un beau mix d'émotions, très surpris, très content, un peu... on n'était pas certain pourquoi qu'on a gagné, mais vraiment, en gros, on est très content là, depuis 36 heures. Là.
OK. Vous dites, on était un peu surpris, on sait pas trop pourquoi on a gagné. Vous avez pas d'idée? Vous savez pas qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez des autres comme ça?
Ben, on sait qu'on se démarque, on sait qu'on est quand même assez bon à ce qu'on fait, mais on est un restaurant qui sort un peu des sentiers battus de ce que est considéré de la gastronomie et les genres de restaurants qui gagnent ces genres de listes, ces genres de concours d'habitude. On est très content que ça soit reconnu. On est un restaurant très décontracté. On dit en anglais un peu casual. On sert beaucoup des plats à partager et des vins nature dans le verre. Alors c'est vraiment cool que ça soit reconnu.
OK, c'est ça qui, en tout cas, vous a peut-être étonné de dire, je suis pas dans ce qu'on appelle les tables traditionnelles. J'ai une approche différente de partage, un peu plus, comme vous dites, casual friendly là, et que ça c'est peut-être pas le type de resto qui se ramasse au premier rang.
Ben, c'est un peu ça, mais en même temps, on voit, en même temps, les listes, c'est un peu dur à comprendre. Une année, t'es premier, l'année d'après, t'es 15e. Nous, entre les deux, on n'a rien changé à ce qu'on fait. Mais quand on regarde un peu comment que Montréal a rayonné cette année, on voit qu'il y a peut-être un certain changement d'approche sur ce qui est considéré la gastronomie ou ce qui est considéré bien manger au restaurant. Puis, je crois que c'est vraiment bon pour la ville, puis... l'avenir à Montréal, je crois que ça se porte bien.
Ben, on trouve plusieurs restaurants là, sur la liste, là, des restaurants très connus là, qui font la liste depuis. Puis il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Là. Mais dites-moi, est-ce que ça change quelque chose? Avez-vous plus de réservations depuis 24 heures?
C'est sûr que depuis hier, le téléphone sonne pas mal. Là. On va peut-être pouvoir engager une deuxième personne pour répondre au téléphone cette semaine. Mais ouais, on est content. On a eu la chance de pouvoir agrandir notre restaurant pendant la pandémie. Alors, on a un peu plus de place pour accueillir les gens, mais ça reste qu'on a quand même juste 50 places. Fait que ouais, on est ouvert 5 soirs, on a 50 places. Ça s'est rempli assez vite pour cette semaine.
Et est-ce que vous avez eu des problèmes, comme beaucoup de restaurateurs, j'allais dire beaucoup d'entrepreneurs, là, de recrutement de main-d'œuvre, de après la pandémie, ramener votre monde? Il y a également le prix des aliments, tout coûte plus cher, on le sait, là.
Je crois qu'on est dans les privilégiés. Ça va bien de ce côté-ci. C'est sûr que pendant la pandémie, il y a eu un peu un exil du monde de la restauration. C'était un peu moins attirant. Notre secteur était moins attirant, mais je sens un retour du balancier depuis la réouverture des salles à manger. Puis, ouais.
Donc, vous êtes capable d'opérer puis de fonctionner, parce que c'est pas tout le monde qui a eu, la même capacité après la pandémie.
Mais c'est sûr que notre industrie avait un peu besoin de se regarder le nombril puis de peut-être modifier certaines façons de faire. Nous, on en a fait partie. Je crois qu'il y a un grand mouvement dans cette direction-là pour rendre justement notre industrie un peu moins dinosaure, un peu plus finalement de son temps. Puis je crois que ça porte fruit en ce moment.
Quand vous dites moins dinosaure, vous pensez à quoi? Il y a beaucoup de restos qui décident d'ouvrir un peu moins, d'offrir aux employés une qualité de vie quand même plus intéressante.
Exactement.
C'est pas mal par là que ça passe.
C'est par là que ça passe. Notre industrie était malheureusement en arrière dans ce domaine-là depuis très longtemps. Puis ça c'est en train de changer, ça l'a changé. Puis je sens que on est de plus en plus attrayant pour les gens qui sortent d'école ou les gens qui veulent travailler dans notre industrie.
Ben bravo à vous et à votre équipe. Merci, M. Frappier.
Merci beaucoup.
Au revoir. Marc-Olivier Frappier, qui est copropriétaire du restaurant numéro 1 au Canada. Quand même pas rien, là, qui s'appelle le Mont Lapin.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.